Merci beaucoup d'abord aux organisateurs, Alain Prochian, Antoine Compagnon et Céline Surprenant pour leur invitation. Alors du coup, on va faire un grand écart temporel, hein, puisque là, c'est plus qu'une éclipse. Hein. C'est quasiment un siècle de distance entre le précédent exposé et ce que je vais traiter maintenant, puisque je vais parler de la manière dont la théorie synthétique, par des canaux inhabituels, et finalement a été enseignée au Collège de France, donc via l'activité de François Jacob, qui était titulaire de la chaire de génétique cellulaire depuis 1964. Et donc je vais m'intéresser très spécifiquement aux quatre conférences qu'a donné Ernst Mayr au printemps de l'année 1978, donc au Collège de France. Alors, quelques mots d'abord sur Ernst Mayr. Vous savez peut-être que la théorie synthétique, ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution ou la synthèse moderne, en fait c'est la version réactualisée du darwinisme qui s'est développée depuis, disons, les années 1930-1940 et qui a fait la synthèse, précisément, entre le principe de sélection naturelle et la génétique mendélienne, sous une forme d'abord théorique qu'on a appelée la génétique des populations, forme théorique qui ensuite a donné lieu à un certain nombre de travaux expérimentaux en laboratoire, mais aussi sur le terrain. Et donc, dans l'édification de cette synthèse, Ernst Mayr occupe une place de choix, puisque classiquement, les trois ouvrages que l'on considère comme fondateurs de cette théorie synthétique sont l'ouvrage de Theodosius Dobzhansky, Genetics and the Origin of Species, en 1937, le livre de Mayr, Systematics and the Origin of Species, et évidemment la similitude des titres est aussi faite pour montrer qu'il s'agit d'un mouvement de fond, un mouvement général. Et enfin, le livre du paléontologue George Gaylord Simpson, Tempo and Mode in Evolution, en 1944. Voilà, donc Mayr est un des grands pères fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution, un des trois certainement plus importants. Et à la fin des années 70, il a l'énorme avantage d'être encore vivant et donc de pouvoir toujours enseigner cette théorie. Alors que beaucoup des gens qui ont participé à cette édification, en fait, sont malheureusement déjà décédés. Maintenant, quand on s'intéresse évidemment à la réception d'un savoir étranger dans une institution, il y a plusieurs manières de voir les choses. Et une perspective que je trouve intéressante, c'est de voir comment cette réception en fait, est un prisme qui révèle l'état du dit savoir dans l'institution en question ou dans la sphère scientifique qui reçoit ce savoir. Et évidemment, en France, la théorie synthétique de l'évolution comme le darwinisme ont eu une réception particulièrement compliquée. Alors, pour ce qui s'agit de la théorie synthétique de l'évolution, elle arrive en France dans une histoire en fait, qui est très différente, une histoire qui, d'une certaine manière, doit beaucoup à Bergson et à l'évolution créatrice dont on a parlé hier, qui est relayée par Teilhard de Chardin et qui, dans les années 60 et 70, en fait, est beaucoup centrée sur Pierre-Paul Grasset et ses travaux sur l'évolution du vivant, qui sont extrêmement prégnants à cette époque, et qui sont, si vous voulez, le contexte extrêmement défavorable de la réception de la théorie synthétique de l'évolution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour Grasset, l'évolution n'a rien à voir avec les mécanismes darwiniens tels que les entendent les fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution, mais en fait, l'évolution est davantage un processus qui est réglé de l'intérieur, donc c'est proche d'une forme de vitalisme qui s'inspire d'une certaine manière de Bergson. Et du coup, cette évolution qui va d'un point alpha à un point oméga, en fait, n'a pas du tout les attributions et les caractéristiques que lui prête la théorie synthétique de l'évolution. Donc on a un affrontement très direct entre une personne qui est au sommet de la zoologie française dans les années d'après-guerre et les mécanismes invoqués par la théorie synthétique de l'évolution. Tant et si bien, bien sûr, que François Jacob, en fait, espère contourner ce poids écrasant de la zoologie française pour faire rentrer la théorie synthétique de l'évolution, alors non pas forcément auprès des spécialistes de la génétique des populations, dont on va voir dans un instant qu'ils étaient là en France, mais disons auprès des biologistes en général, voire auprès du grand public cultivé. Alors, bien sûr, tout ça vient aussi dans une séquence qui est propre à François Jacob et à la biologie moléculaire française, puisque là, vous avez les trois prix Nobel de 1965, Jacques Monod à gauche, André Lvoff au centre et François Jacob à droite de la photographie, et qui publie à la fin des années 60 et au début des années 70 des ouvrages très importants, au premier rang desquels, bien sûr, Le hasard et la nécessité. Donc, on va voir qu'il résonne d'une certaine manière avec les cours de Ernst Mayr et La logique du vivant par François Jacob. Et c'est à travers La logique du vivant que Jacob commence à s'intéresser de manière très étroite à la théorie de l'évolution. Donc 1978, c'est aussi la fin de la décennie qui a vu François Jacob tourner son intérêt de manière assez spécifique vers la théorie de l'évolution. Donc ce sont aussi des motifs personnels qui l'enjoignent à inviter Ernst Mayr. Et donc je vous l'ai dit, dans cette réception, il s'agit de bien distinguer le grand public cultivé, la biologie française, la zoologie française, et le domaine de la génétique des populations qui est en passe de s'institutionnaliser en France à ce moment-là. Tant et si bien que pendant les quelques jours où Mayr va être à Paris, en fait, il va siéger dans trois comités de thèse, entre ces différentes conférences. La thèse de Michel Solignac, donc vous voyez Mayr est dans le jury. La thèse de Dominique Anck-Solabert et la thèse de Georges Périquet. Et donc j'en profite pour remercier Yves Carton et Georges Périquet pour m'avoir transmis les couvertures de ces trois thèses auxquelles Mayr est venu apporter tout le poids de son prestige et de son nom pour aider au développement de la génétique des populations en France qui, jusqu'au mi-temps des années 70, était dans un état relativement embryonnaire, en tout cas dispersé et relativement affaibli par rapport au poids institutionnel de personnes comme Grasset. Donc voilà, si vous voulez, le fil directeur de cette présentation, c'est de voir comment les cours de Mayr, à la fois le texte et le contexte, révèlent l'état du champ en France. Et puis la deuxième chose qui m'intéresse, et que je ne mesurais pas complètement avant de travailler à cette présentation, c'est de constater à quel point les pensées de François Jacob et de Mayr vont être entrelacées et imbriquées, justement à partir des années 70 et jusqu'au début des années 2000, hein, puisque Mayr va décéder en 2004 alors qu'il est déjà centenaire. Et comme vous le savez certainement, François Jacob, lui, est décédé en 2013. Alors, premier point, qu'est-ce qu'il y a dans ces cours ? Alors, c'est très facile pour l'historien parce que ces cours ont été publiés. Donc évidemment, ça permet de savoir très précisément ce que Mayr a dit à ce moment-là. Ah oui, au passage, j'ai cherché des auditeurs de ces cours et j'ai malheureusement pas eu beaucoup de succès dans mes recherches. Donc si parmi vous, il y a des gens qui ont assisté à ces cours, à ces leçons, n'hésitez pas à vous manifester tout à l'heure, je serai ravi d'avoir votre témoignage sur ce qui s'est passé à ces moments-là, puisque Grasset figurait parmi les invités officiels de ces quatre leçons. Donc j'aurais aimé savoir comment lui-même a reçu le discours de Mayr, qui évidemment était totalement opposé à ses propres convictions. Donc, Jacob invite dans un premier courrier datant d'octobre 1976, on trouve la première invitation de Jacob à l'endroit de Mayr. À ce moment-là, ils se connaissaient depuis déjà une petite vingtaine d'années, donc c'était des gens qui échangeaient régulièrement. Et Mayr, bien sûr, c'est pas évident, mais il accepte aussitôt avec enthousiasme, et simplement, comme en 1977, il a été très pris par un certain nombre d'obligations en Allemagne. Oui, Mayr, bien sûr, est allemand au départ, hein, et il est arrivé aux États-Unis du fait de la montée du nazisme, et donc il a fait toute sa carrière aux États-Unis et il a été professeur de zoologie à l'université d'Harvard. Donc, tout ça pour dire que l'invitation date de 1976, et pour différentes raisons, il ne viendra finalement qu'en avril, donc 1978, et avec beaucoup de difficultés, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, le livre, qui reprend donc à la fois les cours, mais aussi d'autres textes inédits de Mayr en français, paraît chez Hermann en 1981. Ce n'est pas le premier livre de Mayr en français, puisque un ouvrage précédent avait été traduit au début des années 70. Et ce qui est intéressant, et j'en parlerai dans la troisième partie de ma présentation, c'est que l'ouvrage issu des cours est préfacé par François Jacob, et le premier ouvrage est préfacé par Jacques Monod. Et on va voir qu'en fait, il y a plusieurs histoires et plusieurs niveaux d'interprétation qui se mêlent dans ces publications. Donc voilà pour le contexte du cours. Mayr a fait cours en anglais et en fait il a rédigé ses cours en anglais et ses cours ont été traduits, très mal traduits en l'occurrence, en français par le traducteur qui avait déjà traduit le premier ouvrage et dont Mayer avait dit à Hermann qu'il ne voulait absolument pas que ce soit lui. Alors bon, les choses se sont passées ainsi, finalement ça a été traduit comme ça. Et non seulement donc, ça a été traduit par quelqu'un que Mayer ne voulait pas, mais en plus, Mayer avait pensé que ses cours feraient la première moitié de l'ouvrage, parce qu'il s'agit vraiment de choses très générales, et que la deuxième moitié de l'ouvrage serait consacrée à des exemples précis. En fait, l'éditeur a fait l'inverse, et il a malencontreusement oublié la bibliographie à la fin de l'ouvrage. Donc Mayer était extrêmement énervé du produit final, qui l'a énormément déçu. Il y a des dizaines de lettres là-dessus, aux archives de l'Institut Pasteur, d'échanges entre Jacob, Mayer et l'éditeur, dont je ne donnerai pas le nom. Alors, structure conceptuelle, donc ce sont les chapitres 5, 6, 7 et 8 de l'ouvrage, la deuxième partie, et ça correspond aux quatre cours qu'il a donnés. Et sur le fond, c'est extrêmement fidèle. Hein, donc il a fait une première leçon sur la biologie et sa situation dans les sciences, où en fait, il a souligné des thèmes qui lui sont chers depuis au moins le début des années 1940, la pensée populationnelle, hein, le fait que le biologiste s'intéresse non pas à des entités que l'on peut définir par des classes de propriété, mais à des entités concrètes qui exhibent une variation au sein d'une population. La possession d'un programme génétique, bien sûr, j'en reparlerai tout à l'heure. Et le concept biologique d'espèce qu'il a remis au goût du jour et qui, pour lui, donne un statut très particulier à la biologie au sein des autres sciences et notamment vis-à-vis de la physique. Donc Ernst Mayr est un des grands promoteurs d'une philosophie de la biologie qui ne soit pas simplement le décalque d'une philosophie de la physique appliquée aux objets biologiques. Alors, un deuxième cours sur quelque chose qui l'obsède depuis le début, c'est la téléologie. Le fait que les êtres vivants montrent une apparence de finalité. Et donc, il va distinguer chez les vivants quatre formes de finalisme. Les processus téléomatiques, des processus automatiques, en fait, qui répondent à des lois physiques, tout simplement, comme par exemple la diminution de la température dans un environnement plus froid, etc., des choses comme ça. Les processus téléonomiques, qui montrent une apparence de finalité qui est en fait la conséquence du jeu de la sélection naturelle. L'exemple typique, c'est le développement embryonnaire, qui semble être orienté vers une fin, mais dont la fin se comprend seulement à la lumière de l'histoire évolutive. Les systèmes adaptés, quatrième forme de processus finaliste, par exemple l'œil, qui est bien sûr par excellence un système adapté, et dont l'origine s'explique à nouveau par la sélection naturelle. Et enfin, quatrième forme de finalisme que Mayer voyait, c'était la progression évolutive. Je passe un peu rapidement là-dessus, hein. Troisième cours, la structure de la théorie de l'évolution, sous-entendu chez Darwin. Il va distinguer quatre hypothèses fondamentales chez Darwin. Le fait de l'évolution, la descendance avec modification, le gradualisme et la sélection naturelle. Alors la partie qui m'intéresse le plus, c'est le dernier cours, celui qui est consacré à l'analyse de la sélection naturelle. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment là que l'on va voir la rencontre frontale avec des gens comme Grasset. Mais quelque chose... de totalement intéressant pour l'historien des sciences, c'est qu'on va voir que c'est aussi à cet endroit-là qu'il va rencontrer non seulement Grasset, bien sûr, ou Teilhard de Chardin, mais aussi, par exemple, Jacques Monod. J'en viens à mon deuxième point, le pouvoir explicatif de la sélection naturelle, Mayer contre Teilhard, Grasset, mais aussi Monod. Alors, que nous dit Mayer ? Les darwiniens sont convaincus que la théorie de la sélection naturelle a résolu le problème des causes finales dans la nature vivante. Mais un certain nombre de publications récentes démontrent que l'on est encore loin de l'unanimité dans l'interprétation de ce qui semble, de ce qui semble des processus dirigés vers un but dans la nature vivante. C'est évident quand on lit par exemple le phénomène humain de Teilhard de Chardin ou l'évolution du vivant de Grasset et de nombreuses publications de la littérature philosophique. Donc toujours ces cibles, hein, très bien identifiées. Néanmoins, si on continue la lecture, on trouve ceci. Une raison bien plus importante dont nous parlerons dans la quatrième conférence est la suivante. Celui qui ne comprend pas la sélection naturelle est obligé d'accepter l'une des deux solutions qui restent, le hasard ou la nécessité. Comme il est impossible de croire que toutes les merveilleuses adaptations du monde vivant résultent d'un hasard aveugle, sous-entendu, c'est la position de Grasset, le dernier recours est l'acceptation de la nécessité, c'est-à-dire des causes finales. Donc là, en creux, il décrit la position de Grasset, mais évidemment, on ne peut pas ne pas remarquer que le hasard et la nécessité est dans le paragraphe. Et en fait, ce quatrième et dernier cours, qu'il a finalement appelé « Analyse de la sélection naturelle », il avait d'abord proposé à François Jacob de l'appeler « Beyond Chance and Necessity », au-delà du hasard et de la nécessité. Et finalement, Jacob lui a dit bah, « Non, si tu pouvais l'appeler plutôt « Analyse de la sélection naturelle », finalement, ce serait mieux. » Alors, qu'est-ce qu'on trouve maintenant dans la correspondance ? Puisque, évidemment, on se permet plus de choses dans la correspondance. Donc c'est une lettre de Mayer à Jacob de 77. Soyons clairs, le non-évolutionniste moyen ne comprend toujours pas l'évolution et en particulier la sélection naturelle. Il n'est même pas nécessaire de mentionner Grasset. Il suffit de penser aux deux derniers chapitres du livre de Jacques Monod. Quand on regarde du côté des philosophes, la situation est bien pire. Il avait vraiment une dent contre les philosophes, c'est quelque chose qui reste à éclaircir. Il est évidemment en opposition à Grasset, mais il reproche bien sûr à Monod d'avoir donné une version extrêmement caricaturale et selon lui faussée de la sélection naturelle. Alors, on en revient maintenant au premier ouvrage traduit en français dont Monod a accepté de donner une préface. Il y a eu donc une correspondance entre Mayer et Monod. Voici ce que dit Mayer à Monod quelques années auparavant. « Le Stuttgart Zeitung m'a demandé d'écrire une recension sans concession, en anglais, oui, j'ai traduit, hein, toutes les lettres sont en anglais, bien sûr, provocative, de votre livre. J'ai bien peur d'avoir dû les décevoir parce que je n'ai rien trouvé à redire concernant chacune de vos prémices ou de vos conclusions. Pour quand même leur donner satisfaction, je vous ai critiqué, pour ne pas avoir donné davantage d'importance à la sélection naturelle en tant que facteur anti-hasard qui trie les produits du hasard. Bien sûr, vous êtes pleinement conscient de la sélection naturelle, et vous l'avez discuté non seulement très directement sur 11 pages, mais aussi avez souligné son rôle dans l'évolution de l'homme. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir fait l'effort de satisfaire la demande qui m'était faite. Comme je le disais, ma légère critique ne concerne en rien votre thèse centrale. » Bon, en fait, évidemment, là, c'est une version très édulcorée. Hein, Mayer reproche à Monod sa conception de la sélection naturelle. Et donc, il développe ce qu'on doit comprendre comme étant le concept, le véritable concept de sélection naturelle dans ce cours du Collège de France, notamment quand il dit « Grâce à la théorie de la sélection naturelle, Darwin offrait le moyen d'éviter ce dilemme du hasard et de la nécessité. Car, comme le faisait remarquer Sewell White, le processus darwinien de l'interaction continue d'un processus aléatoire et d'un processus sélectif n'est pas intermédiaire entre le hasard pur et les déterminismes purs. Par ses conséquences, il est qualitativement tout à fait différent des deux. » Autrement dit, là, Mayer insiste sur ce qu'on appelle la créativité du processus de sélection naturelle, que je n'ai pas le temps malheureusement d'expliquer dans le détail. Ni la majorité des philosophes, ni les autres opposants à Darwin n'ont reconnu le fait que la sélection naturelle constituait une troisième solution indépendante pour la causalité du changement évolutif. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant et je trouve extrêmement significatif du point de vue des relations entre Mayer et Jacob, c'est que, alors je vais passer un certain nombre de points, c'est que quand Mayer doit expliquer en détail ce qu'est la créativité de la sélection naturelle, en fait, il cite Jacob. C'est la fin du paragraphe, mais comme François Jacob a eu raison de le souligner, ce processus d'élimination n'est absolument pas le même que celui de la sélection naturelle. Donc si vous voyez la sélection naturelle comme l'élimination des inaptes, en fait, vous tombez à côté du cœur explicatif de ce principe. Et là, qu'est-ce qu'il cite ? Il cite tout un passage de Jacob. Il cite un passage de Jacob qui, en fait, provient d'un article qui s'appelle, qui est très connu bien sûr, Evolution and Tinkering, l'évolution et le bricolage, que François Jacob a publié dans Science en 77. Donc on est vraiment à quelques mois d'écart, et c'est à ce moment-là que les choses cristallisent entre François Jacob et Ernst Mayer. Alors, simplement juste pour donner un petit peu de contenu à cette idée de créativité de la sélection naturelle, la sélection naturelle n'est pas simplement un crible qui élimine les mutations nuisibles et favorise la production de celles qui sont bénéfiques, ainsi qu'on l'a souvent laissé penser. Elle intègre les mutations à la longue et les ordonne suivant des modèles adaptativement cohérents pendant des millions d'années et des millions de générations comme réponse aux défis posés par l'environnement. C'est la sélection naturelle qui donne une direction au changement, oriente le hasard et produit lentement, progressivement, des structures plus complexes, de nouveaux organes et de nouvelles espèces. Les nouveautés proviennent de l'association auparavant non reconnue d'un matériel ancien. Créer, c'est recombiner. Donc là, on a Jacob, cité par Mayer. L'essentiel du texte, c'est une excellente explication de ce que c'est que la créativité de la sélection naturelle. Et à la fin, Jacob introduit ce qu'il défend dans cet article. Créer, c'est recombiner, c'est-à-dire que l'évolution, étant donné qu'il y a vraiment généalogie effective entre les êtres vivants, l'évolution ne peut que recombiner des structures préexistantes et les assortir à de nouvelles fonctions. Donc, ceci nous montre qu'il y a une convergence d'intérêts entre Mayer et Jacob à ce moment-là, au moment où Mayer prononce donc ses quatre leçons au Collège de France. Et en fait, si on tire le fil, on s'aperçoit que le fil va très loin et que les échanges épistolaires, qui sont très nombreux, mais du coup théoriques et conceptuels entre Jacob et Mayer, en fait, sont très nombreux. Alors, je vais juste donner quelques exemples rapidement dans ma troisième partie. Alors, évidemment, le cas le plus connu, le plus célèbre, et aussi d'une certaine manière le plus problématique pour les historiens des sciences, c'est le cas du programme génétique, du concept de programme génétique, puisque traditionnellement, On dit que ce concept est né simultanément chez Jacob et chez Monod, d'une part, et chez Mayer, d'autre part. Donc à la fin de l'article, qui est en fait une synthèse, une review de Jacob et Monod, publiée donc en juin 1961 dans le Journal of Molecular Biology, article qui va leur valoir directement le prix Nobel de 65. En fait, Jacob et Monod proposent, pour la première fois dans un texte publié, que le génome non seulement contient les informations pour coder les protéines, mais aussi les informations qui permettent de réguler le fonctionnement de ce génome, ce qu'ils appellent donc le programme génétique. La même année, Mayer publie dans Science, toujours, un article lui aussi extrêmement célèbre et extrêmement cité à la fois en biologie et en philosophie de la biologie, Cause and Effect in Biology, à l'intérieur duquel, en fait, il va détailler ses idées, qui ensuite deviendront célèbres, sur le fait qu'il existe deux types de biologie, une biologie qui s'intéresse aux causes prochaines, c'est typiquement la biologie moléculaire, et une biologie qui s'intéresse aux causes historiques, c'est typiquement la théorie de l'évolution. Et que, bien sûr, ces deux domaines peuvent se rencontrer, mais sont relativement indépendants l'un de l'autre. Et c'était aussi une réponse de Mayer à la volonté impérialiste de la nouvelle biologie moléculaire de réduire toute la biologie à la seule biologie moléculaire. Et donc Mayer explique dans cet article que finalement ce qui relie les deux, c'est le programme génétique, dans le sens que le programme génétique est la cause prochaine des processus physiologiques et embryologiques, tout comme il est l'effet de la sélection naturelle. Et donc il est produit par les causes historiques, et il est la cause des processus physiologiques. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait aussi clair dans le texte de Mayer, mais disons que c'est son idée fondamentale. Alors évidemment, ça a beaucoup interrogé les historiens, hein, puisque à quelques mois de distance, on a deux textes qui présentent tous deux le concept de programme génétique dans des contextes très différents, la biologie moléculaire d'un côté, et un article à visée plus générale formulé par Ernst Mayer, c'est-à-dire quand même un ornithologue, hein, donc quelqu'un qui est très loin de la biologie moléculaire. Il y a eu un excellent travail paru récemment, réalisé par Alexandre Pelloufo, justement sur la naissance, la genèse de cette métaphore, en comparant Jacob et Monod d'un côté et Mayer de l'autre. Donc c'est un travail assez exhaustif sur les archives, et en gros, je synthétise ce que Pelloufo nous apprend, c'est que finalement, on ne peut pas trop savoir comment ça s'est fait, parce qu'on manque d'archives sur ce qui s'est passé avant 61. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est que Mayer et Jacob se connaissaient directement, parce qu'il y avait énormément d'échanges entre l'Institut Pasteur et les savants américains via différents réseaux, que je n'ai pas le temps de détailler, mais donc il est très probable qu'ils se soient rencontrés auparavant, et que, en fait, le concept de programme génétique était utilisé de manière informelle dans les discussions bien avant cette double publication. Alors c'est d'autant plus plausible que ni Jacob, ni Monod, ni Mayer ne revendiquent la paternité de ce concept. C'était donc certainement une manière de parler qui était extrêmement répandue à l'époque. Simplement, ça nous montre que déjà, il y avait certainement des interactions relativement régulières entre Mayer et Monod, et Mayer et Jacob. Et quand on lit la correspondance qui a été conservée, donc qui est postérieure à tout ça, effectivement, le ton qu'ils emploient, les anecdotes qu'ils se racontent, montrent que certainement ils se connaissaient de longue date. Alors, je vais prendre un autre exemple que l'exemple du programme génétique, enfin qui est en lien avec le programme génétique, mais je vais prendre l'exemple de la distinction entre programme ouvert et programme fermé. Parce qu'en fait, dans donc, son cours du Collège de France, Mayer va revenir sur le fait qu'il existe au moins deux types d'organismes animaux, des animaux chez qui le programme génétique est fermé, c'est-à-dire que les capacités d'apprentissage sont très faibles, et les réponses de ces animaux sont largement stéréotypées, largement innées. Et puis il oppose à ce programme fermé un programme ouvert qui, lui, je lis, permet des acquisitions supplémentaires au cours de la vie de son possesseur, et donc c'est ce que je nomme un programme ouvert. Donc voilà ce qu'il dit dans son cours au Collège de France. Alors moi, quand j'ai lu ça, ça m'a tout de suite rappelé la logique du vivant, et voilà ce que dit François Jacob auparavant. Avec le développement du système nerveux, avec l'apprentissage et la mémoire, se relâche la rigueur de l'hérédité. Dans le programme génétique qui sous-tend les caractéristiques d'un organisme un peu complexe, il y a une part fermée dont l'expression est strictement fixée, une autre ouverte qui laisse à l'individu une certaine liberté de réponse. D'un côté, le programme prescrit avec rigidité, structure, fonction, attribut. De l'autre, il ne détermine que potentialité, norme, cadre. Ici, il impose, là, il permet. Bon, on reconnaît tout le talent littéraire de François Jacob, mais l'idée est exactement la même que celle de Mayer. Et donc, je me suis demandé, mais qui avait fait quoi en premier et comment ces idées s'étaient rencontrées ? Alors, au début, je penchais du côté Jacob, parce que dans l'article de Science dont j'ai parlé sur bricolage et évolution, en fait, on lit ceci. Néanmoins, le cours de l'évolution se caractérise par une tendance à une plus grande flexibilité dans l'exécution du programme génétique. Au fur et à mesure que le programme devient plus ouvert, pour ainsi dire, alors pour ainsi dire, ça semble sous-entendre que c'est quand même une manière de parler qui lui est propre. Le comportement devient moins rigidement déterminé par les gènes. Et du coup, je me suis dit, comme Mayer cite une autre partie de cet article dans le même cours, c'est très certainement là que les interactions ont commencé, et donc l'idée serait plutôt de Jacob. Mais non. En fait, si on remonte plus loin dans le temps, et dans un article de 64, Mayer développe déjà cette distinction entre programme ouvert et programme fermé. Je ne vais pas relire toute la citation, mais c'est extrêmement clair et totalement explicite. Et en fait, Jacob, dans Le jeu des possibles, publié en 81, là, fait directement référence à Mayer. Mais c'est la première fois. En fait, dans tous les textes précédents, durant toute la décennie des années 70, quand il va utiliser cette distinction, Jacob ne va jamais directement se référer à Mayer. Du coup, cette connexion entre les deux, elle est extrêmement puissante. Elle est à double sens, évidemment. Ça va dépendre des idées que vous allez étudier. Mais elle est rendue difficile à lire parce que l'un comme l'autre sont assez avares en citation et en référence, et peut-être plus Jacob encore que Mayer. Donc voilà, je pense que bien au-delà de ce que j'imaginais avant de préparer cette communication, il y a vraiment des échanges conceptuels extrêmement nourris et extrêmement complexes qui ont lieu entre Mayer et Jacob depuis les années 70 jusqu'au début des années 2000. Et que donc il y aurait par exemple là un formidable travail de thèse à faire sur cette relation entre deux biologistes centraux de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors j'en arrive à ma conclusion. Premier point de cette conclusion, c'est que ces cours au Collège de France ont considérablement renforcé les liens entre Mayer et Jacob. Jacob en a profité pour inviter Mayer directement chez lui durant son séjour à Paris. Et en fait, on voit dans la correspondance entre les deux un ton qui devient de plus en plus familier et des échanges qui concernent certes toujours la science, mais aussi on prend des nouvelles des familles respectives. Et par exemple, Ernst Mayer a été très impressionné par la lecture de l'autobiographie de Jacob, La statue intérieure, et il lui a dit, dans une lettre donc, de la fin des années 80, en fait, en vous lisant, j'ai compris à quel point il avait été difficile pour vous, finalement, de vous relever de votre prix Nobel, et comment ça a dû être compliqué de vous réinventer après le mi-temps des années 1960. Parce que pour ceux qui ne savent pas, La statue intérieure s'arrête en décembre 1960. Elle est écrite... Elle est publiée en 1987. En décembre 1960, François Jacob soumet au Journal of Molecular Biology l'article dont j'ai parlé tout à l'heure et qui ensuite va lui valoir le prix Nobel. En 60, Jacob a 40 ans. Et donc il fait l'impasse dans son autobiographie sur les 27 années suivantes. Et donc voilà, il y a des échanges extrêmement intimes là-dessus. Donc cette relation intellectuelle, elle s'est petit à petit renforcée par une relation d'amitié extrêmement forte entre les deux. Et puis, Jacob ne s'est pas arrêté là. Il a voulu vraiment donner toute sa place à la théorie synthétique de l'évolution au Collège de France, et donc il a invité dans la foulée Richard Lewontin, un des grands généticiens américains des années 60-70, donc au printemps 1980. Malheureusement, là, il n'existe aucune archive, ni échange de correspondance, ni maquette du cours, donc je n'ai rien sur le contenu ou sur le contexte. Alors, Richard Lewontin est toujours vivant, donc j'en ai profité pour le contacter, et je lui ai demandé, mais alors, qu'est-ce que vous avez parlé de quoi à Paris, et comment ça s'est passé, est-ce que Grasset était là? Et en fait, il m'a dit, je n'ai absolument aucun souvenir de mon passage à Paris. Je me souviens juste que, fut un temps, je parlais français. Voilà, donc très certainement, le cours a lieu en français, mais c'est la seule information dont, pour l'instant, je dispose. Et puis, 2 ans plus tard, Gould, lui-même, est venu faire cours donc, dans la chaire de François Jacob au Collège de France. Donc, même format que Mayer, et très certainement même format que Lewontin, 4 cours au printemps 1982. On a quelques lettres entre Gould et Jacob, 6 ou 7, mais c'est vraiment le contexte matériel. Quand est-ce que je viens, où est-ce que je loge, donc voilà, pas tellement de substance. Et là encore, les cours, sauf erreur de ma part, n'ont été publiés nulle part, et en tout cas, on n'en a aucune trace matérielle. Donc c'est aussi pour ça que les cours de manière sont beaucoup plus intéressants, parce qu'on a à la fois le texte et le contexte. Alors, j'en viens au dernier point de ma conclusion, et ça fait directement référence à la présentation pardon, qu'on a eue tout à l'heure, qui rappelait que Darwin a eu beaucoup de mal à se faire élire à l'Académie des sciences. Et en fait, ça montre bien que les zoologistes français, jusque très tard dans le XXe siècle, ont été des opposants farouches sous la conduite de Grasset à la génétique des populations, à la théorie synthétique d'évolution, et qu'ils ont dirigé d'une main de fer le système académique français. Parce que Mayer, comme Darwin un siècle auparavant, a eu beaucoup de mal à se faire élire à l'Académie des sciences. Et Jacob a essayé plusieurs fois de le faire passer dans la section de zoologie. Oui, donc vous savez, à l'Académie des sciences, c'est découpé en sections, et donc il y avait une section de zoologie. Ernst Mayer, bien sûr, en tant qu'ornithologue, devait être élu dans cette section-là. Et en fait, il en a eu marre, Jacob. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a fait élire dans la section de biologie moléculaire. Alors, je ne résiste pas, pour conclure, à vous donner un extrait d'une lettre donc, de Jacob à Mayer. Jacob annonce à Mayer son élection à l'Académie des sciences. « Cher Ernst, concernant ton élection à l'Académie des sciences, je dois te raconter la partie la plus incroyable. J'ai essayé de te faire élire en tant que zoologiste, comme cela semble logique. Mais les zoologistes n'étaient pas intéressés par l'évolution. Comme tu le sais, ils n'ont jamais été. » Référence à Darwin. « Du coup, j'ai essayé avec les biologistes moléculaires qui sont plus intelligents. » Et ça a marché. Tu as donc été élu en tant que biologiste moléculaire. Voilà. Donc, vraiment, ces cours au Collège de France, ça n'était pas qu'une question de rapport amicaux entre Mayer et Jacob. Jacob avait bien compris qu'il devait peser de tout son poids institutionnel pour que, enfin, la théorie synthétique de l'évolution prenne toute sa place en France, non pas forcément dans la discipline de la génétique des populations qui était en train de naître, et bien sûr, là, les choses étaient, on va dire, acquises, mais dans le paysage global, qui est encore largement dominé par des personnages comme Grasset, et qui avait encore une importance, à ce moment-là, assez forte, suffisamment forte, pour que Mayer ne soit pas élu en tant que zoologiste à l'Académie des sciences en 1989. Hein, donc, ce n'est pas la préhistoire de la biologie, c'est quand même des temps relativement récents. Et j'en ai terminé, je vous remercie.